Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Archery. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Ce volume réunit deux textes complémentaires de Sigmund Freud. 5 leçons sur la psychanalyse reprend les conférences données en 1909 à la Clark University aux États-Unis devant un auditoire peu familier de cette discipline naissante. Freud y expose, dans une forme volontairement pédagogique, le passage des études sur l'hystérie à la méthode psychanalytique, puis ses notions centrales refoulement, résistance. Association libre, rêve, acte manqué, sexualité infantile et névrose. La contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique, publiée en 1914. Change de registre, Freud y défend la singularité de sa doctrine, retrace ses rapports avec Joseph Breuer et décrit les controverses qui ont accompagné son essor, notamment les ruptures avec Alfred Adler et Carl Jung. L'ouvrage est donc à la fois une synthèse théorique et un document historique engagé. Il doit être lu comme une présentation de la pensée freudienne à son époque et non comme un état actuel des connaissances cliniques ou psychologiques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, du cas d'hystérie à la naissance de la méthode psychanalytique, Freud ouvre son exposé par le cas d'Anna O, patiente traitée par Joseph Breuer dans les années 1880. Ce cas lui permet d'expliquer le point de départ clinique de la psychanalyse. Certains symptômes hystériques ne sont pas rapportés à une lésion organique identifiable, mais à des expériences affectivement chargées dont le souvenir demeure actif. La méthode cathartique de Breuer cherchait, souvent sous hypnose, à faire revivre et verbaliser les circonstances liées aux symptômes afin de provoquer une décharge émotionnelle. Freud reconnaît l'importance fondatrice de ce travail tout en montrant pourquoi il s'en éloigne. L'hypnose limite la participation consciente du patient et ne rend pas pleinement intelligibles les obstacles rencontrés durant le traitement. La psychanalyse se constitue lorsque l'investigation se déplace vers la parole du patient éveillé et vers les forces qui s'opposent au retour de certains souvenirs ou désirs. Cette généalogie donne au texte sa dimension concrète. La théorie N n'est pas présentée comme un système abstrait, mais comme une réponse aux difficultés de la pratique clinique. Elle éclaire aussi la place décisive accordée par Freud à l'écoute, au récit et à la signification subjective des symptômes. Deuxièmement, refoulement et résistance comme modèle du conflit psychique, la deuxième articulation majeure du livre concerne le refoulement. Pour Freud, le patient ne manque pas seulement de souvenirs, il existe une force psychique qui s'oppose à l'accès à des représentations pénibles, conflictuelles ou incompatibles avec l'image que le sujet a de lui-même. Le refoulement désigne ce rejet hors de la conscience, tandis que la résistance désigne ce qui se manifeste dans la cure lorsque l'analyste tente d'approcher le contenu écarté. Cette distinction permet à Freud de donner une logique aux symptômes névrotiques. Celui-ci n'est ni un accident sans sens ni la simple trace d'un événement passé. Il constitue une formation de compromis entre un désir écarté et les défenses qui empêchent sa reconnaissance directe. La méthode de l'association libre vise précisément à suivre les enchaînements d'idées sans sélection volontaire. Les hésitations, oublis, détours et objections du patient deviennent alors des éléments à interpréter plutôt que de simples échecs de la communication. La portée du modèle dépasse l'hystérie, car Freud l'étend à des phénomènes ordinaires de la vie psychique. Il faut néanmoins distinguer cette construction théorique historique des modèles contemporains de la mémoire, du trauma et des troubles mentaux, qui ne valident pas nécessairement ces présupposés. Troisièmement, rêve, lapsus et actes manqués comme voie d'accès à l'inconscient. Freud présente les rêves et les actes manqués comme des manifestations privilégiées du déterminisme psychique. Cette idée conteste l'impression selon laquelle un lapsus, un oubli de nom ou un geste involontaire serait toujours de pur hasard. Dans le cadre freudien, ces phénomènes peuvent exprimer indirectement une intention, un désir ou un conflit qui ne parvient pas à se formuler ouvertement. Le rêve occupe une position centrale, puisque Freud le considère comme une voie d'accès à la vie inconsciente. Il distingue ce dont le rêveur se souvient au réveil, soit le contenu manifeste, des pensées latentes reconstruites par le travail d'interprétation. L'enjeu n'est pas d'appliquer un dictionnaire universel de symboles, mais de partir des associations propres au rêveur. Cette méthode prolonge l'association libre et suppose que la production apparemment incohérente possède une organisation à déchiffrer. Dans ses conférences, Freud utilise ces exemples pour généraliser le champ de la psychanalyse. Les processus inconscients ne concernent pas uniquement les personnes diagnostiquées comme névrosées. Cette extension explique l'influence culturelle considérable de ces concepts. Elle appelle aussi une lecture critique, car l'interprétation freudienne ne fournit pas une procédure de vérification objective comparable à un test expérimental. Quatrièmement, sexualité infantile, complexe d'Oedipe et théorie freudienne des névroses, les dernières leçons exposent le rôle que Freud attribue à la vie sexuelle dans la formation des névroses. Par sexualité, il ne vise pas seulement la génitalité adulte ou la reproduction, mais un ensemble de pulsions et de recherches de plaisir qui se développent dès l'enfance. cette thèse de la sexualité infantile fut l'une des propositions les plus contestées de la psychanalyse, car elle heurtait les conceptions morales et médicales dominantes de son temps. Freud relie le développement de ses pulsions aux investissements affectifs envers les proches et présente le complexe d'Oedipe comme une configuration importante des désirs, rivalité infantile. Dans ce modèle, les conflits précoces ne disparaissent pas simplement avec l'âge, ils peuvent être refoulés, transformés et participer à des symptômes ultérieurs. Freud introduit également le transfert, soit le déplacement sur la personne de l'analyste d'attente, d'attachement ou d'hostilité issue de relations antérieures. Le transfert N est donc pas une perturbation périphérique, mais une composante du travail analytique. Ce cadre aide à comprendre la cohérence interne de la cure freudienne. Parler des symptômes exige d'examiner les conflits, les relations et les défenses. Ces propositions sur l'universalité et le primat de la sexualité demeurent toutefois historiquement influentes, mais scientifiquement et cliniquement très discutées. En dernier lieu, une histoire militante de la psychanalyse et de ses dissidences. La contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique ne se contente pas de compléter les 5 conférences par des précisions biographiques. Freud y construit un récit de fondation, il situe les apports de Charcot et de Breuer, revendique le développement spécifique de la psychanalyse et explique les résistances rencontrées par ses idées. Le texte documente ainsi la difficulté d'imposer une théorie qui attribue aux symptômes une signification psychique et qui place les désirs inconscients au centre de l'enquête. Clinique. Mais il révèle aussi une dimension institutionnelle et polémique. Freud défend les éléments qu'il juge constitutifs de la psychanalyse, notamment le refoulement, l'inconscient et l'importance de la sexualité contre les reformulations proposées par Adler et Jung. Il ne s'agit donc pas d'une chronique neutre, l'auteur est à la fois témoin, acteur principal et juge des conflits qu'il rapporte. Cette partialité fait l'intérêt historique du texte autant que sa limite. Le lecteur y observe comment une école de pensée définit ses frontières, répartit les héritages et traite les divergences internes. La seconde partie est moins immédiatement accessible que les conférences, car elle suppose un intérêt pour l'histoire intellectuelle de la discipline. Elle permet néanmoins de comprendre que la psychanalyse S est développée dans des débats théoriques, professionnels et personnels, plutôt que par une progression linéaire et consensuelle. En conclusion, ce livre convient d'abord au lecteur qui souhaite identifier les notions fondatrices de Freud dans un texte bref, directement rédigé par son auteur. Étudiant en philosophie, psychologie, littérature, histoire des idées ou sciences humaines y trouveront une entrée utile pour comprendre le vocabulaire qui a durablement marqué la culture moderne inconscient, refoulement, résistance, interprétation des rêves, transfert et complexe d'Oedipe. Sa première partie offre l'avantage d'une exposition condensée, structurée par 5 conférences destinées à des non-spécialistes. Elle rend visible le lien entre observation clinique, méthode de parole et construction théorique. La seconde partie apporte un bénéfice différent, elle replace les concepts dans les rivalités, les alliances et les ruptures qui ont façonné le mouvement psychanalytique au début du XXe siècle. Par rapport à un manuel contemporain, l'ouvrage est moins neutre, moins actualisé et moins attentif aux débats empiriques ultérieurs. C'est précisément ce qui le distingue, il donne accès à la formulation historique, persuasive et parfois combative de Freud lui-même. Une lecture profitable exige donc de tenir ensemble 2 perspectives. Il faut saisir la puissance interprétative de ces hypothèses et leur influence sur la clinique et les arts, tout en les confrontant aux critiques scientifiques, éthiques et théoriques qui leur ont été adressées. Le volume est particulièrement pertinent comme texte d'initiation critique, non comme guide thérapeutique autonome. Si vous souhaitez soutenir Sigmund Freud, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.